Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi soir 13 mars 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Une attaque terroriste a visé un porte-conteneur iranien dans les eaux internationales de la mer Méditerranée. Avec leur avancée fulgurante sur l'axe nord-ouest de Marib, les combattants yéménites sont à une distance de 14 km de Marib. Emmanuel Macron a-t-il perdu les Français et la prochaine élection présidentielle? C'était les principaux titres. En voici le journal. Le commandant de la force ROTS du Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a déclaré qu'Israël est en train de construire un mur tout autour de lui, un mur que nous détruisons également. Le vendredi 12 mars, le général de brigade Ismail Rahani, commandant de la force ROTS du CGRI, a affirmé que la façon dont les forces de la résistance à travers le monde font face, les mains vides, aux puissances arrogantes armées jusqu'aux dents, est spectaculaire et louable. Nous sommes fiers des forces de résistance palestiniennes et yéménites qui fabriquent des missiles avec leurs seules mains et parviennent à viser le régime saoudien, a souligné le commandant Rahani. Bien que les combattants yéménites ne disposent pas de médias, ils ont surpris le monde. En moins de 10 jours, ces combattants ont mené 8 opérations réussies contre des cibles sensibles en Arabie Saoudite, a-t-il indiqué. Le commandant de la force ROTS a par ailleurs souligné que les puissances arrogantes du monde, telles que les États-Unis et Israël, sont devenues plus faibles, comme ils ne l'ont encore jamais été auparavant. Sans manquer de préciser, bien que tous les moyens du monde soient à la disposition d'Israël, il construit un mur tout autour de lui, 1 mètre de large et 6 mètres de haut, pour se protéger. Qu'il sache que nous détruisons son mur aussi. Dans une autre partie de ses propos, le général Rahani a déclaré que les États-Unis ont prouvé leur criminalité au monde avec l'assassinat du général Rassem Soleimani, avant d'ajouter « Nous avons dit que nous briserons les os de l'Amérique criminelle et que le bruit de sa dislocation se fera entendre à temps. Aujourd'hui, nous sommes témoins du fait que les États-Unis sont confrontés à de nombreux problèmes internes. Et après la mort en martyr du général Soleimani, les élèves fidèles à son école ont annoncé qu'ils briseraient les os des États-Unis, a-t-il martelé. Le porte-parole de la compagnie maritime de la République islamique d'Iran a annoncé une attaque terroriste contre un porte-conteneur iranien dans les eaux internationales de la Méditerranée. Ali Riassian, porte-parole de la compagnie maritime de la République islamique d'Iran, a annoncé vendredi qu'une partie de la coque du navire avait été endommagée suite à une explosion sur le porte-conteneur Charlie Court survenue dans les eaux internationales de la Méditerranée le mercredi 10 mars. Le porte-conteneur Charlie Kord a été légèrement endommagé lors de l'incident de mercredi dans les eaux internationales de la Méditerranée par un objet explosif qui a provoqué un petit incendie, mais personne à bord n'a été blessé, a déclaré le responsable Ali Riassian, cité par l'agence de presse iranienne Tasnim. De tels actes terroristes constituent de la piraterie navale et sont contraires au droit international sur la sécurité de la navigation commerciale et des mesures juridiques seront prises pour identifier les auteurs par le biais des institutions internationales compétentes, a déclaré Riassian. Le navire se dirigeait vers l'Europe au moment de l'attaque et repartira pour sa destination après réparation, a-t-il indiqué. Il a souligné que l'explosion avait provoqué un petit incendie qui avait été éteint par l'équipage du navire. Cette attaque terroriste a eu lieu alors même que l'Iran livre régulièrement de l'essence à la Syrie, cible des sanctions. L'embargo sur l'achat de produits pétroliers a réduit l'accès à l'essence et augmenté son prix en Syrie. Et les politiques du gouvernement syrien, telles que les quotas et les subventions pour contrôler et réduire les prix, n'ont pas fonctionné. Avec la demande quotidienne de 4,5 millions de litres d'essence en Syrie, on voit toujours de longues files d'attente dans le pays. Pour briser les défenses des éléments de la coalition saoudienne à l'ouest de la ville de Marib, les forces de la résistance yéménite en Sarala ont ouvert un nouveau front sur l'axe nord-ouest de la ville et avancent dans cette direction. Menée sur l'axe ouest de la province de Marib, est et sud-est du district de Sirva, pour libérer les zones occupées par les mercenaires de la coalition saoudienne, ainsi que les terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda, les opérations de l'armée yéménite et d'Ansarala se poursuivent, a rapporté une source sur le terrain vendredi 12 mars. La source indique qu'au cours de ces derniers jours, les affrontements ont diminué d'intensité sur les axes est et sud-est du district de Sirva, situé en banlieue ouest et sud-ouest de la ville de Marib. La source précise que la distance entre les combattants yéménites par rapport à l'est et du sud-est de Sirva n'a pas changé et qu'elle est respectivement de 10 et 15 kilomètres, signalant également des affrontements depuis l'axe nord-est de Sirva sur la frontière du sud-est de Mardral. Et la source de poursuivre que les heurts se sont intensifiés dans les régions d'Al-Kassara et d'Al-Mashja. Les combattants yéménites lancent des attaques à grande échelle le long de l'axe et ouvrent un nouveau front pour faire plus de pression sur la coalition saoudienne à l'ouest de la ville, faisant état des dizaines de morts et de blessés dans les rangs des mercenaires à la solde de Riyad au cours des affrontements. La source affirme qu'un nombre de hauts commandants de la coalition saoudienne figure parmi les victimes. Les nouvelles provenant de la banlieue nord-ouest de la ville de Marib indiquent qu'après de violents combats, les combattants yéménites ont réussi à prendre contrôle de la zone d'Al-Ziyab dans le district d'Al-Dashush des forces de la coalition, les repoussant vers l'est. Au cours des batailles sur cet axe, plus d'une centaine de mercenaires de la coalition saoudienne ont péri et des centaines d'autres ont été blessés. Le commandant chef sur le terrain, Abu Munira al-Marrachi, figure parmi les blessés. En dépit des bombardements incessants des Saoudiens, l'armée yéménite et les combattants d'Ansarala continuent de gagner du terrain dans différentes régions aux alentours de la ville stratégique de Marib. Les progrès réalisés ont permis aux combattants yéménites d'être maintenant à une distance de 14 km sur l'axe nord-ouest de la ville. Quittons la région et allons directement en France où la Macronie ferait des déçus. Selon une étude IFOP fiduciale, les trois quarts des Français s'estimeraient lésés par la politique du chef de l'État. L'exécutif paierait là les déconvenues dont il serait la cause. La perspective d'une réélection inéluctable d'Emmanuel Macron, dépourvue du moindre concurrent sérieux, s'éloigne-t-elle? C'est le tour que semblent prendre les choses, en croire un sondage réalisé par l'Institut IFOP Fiducial. Réalisé cette semaine sur un échantillon représentatif de la population française, l'enquête révélerait un sentiment d'abandon assez net face à la politique menée par l'actuel gouvernement. Ainsi, seuls 27% des personnes interrogées se considéraient gagnantes de la politique d'Emmanuel Macron contre 73% qui s'estiment perdantes. Un quart des mécontents se sentiraient même largement défavorisés par l'action menée depuis 4 ans. Chez ces irréconciliables insatisfaits, c'est sans surprise vers le Rassemblement national 34% et la France insoumise 33% que vont les affinités. Phénomène plus étonnant, bien qu'explicable par le sentiment de trahison envers les transfuges de leur parti, les adhérents du Parti socialiste seraient également 28% à se considérer spoliés par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin, ces trois sensibilités politiques s'estiment chacune perdante pour plus de 80% d'entre elles. Pour ce qui concerne le reste du spectre politique, parmi les sympathisants LR interrogés, le niveau d'insatisfaction est de 76%. Ce taux atteint 73% chez EELF. L'Égypte a rejeté vendredi une déclaration conjointe publiée par un certain nombre de pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui comprenait des critiques sur la situation des droits de l'homme dans le pays d'Afrique du Nord. Dans son communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé son rejet absolu de la déclaration dont il a dit qu'elle contient un discours sans fondement basé sur des informations inexactes. Le ministère a également fait part de son extrême étonnement et de sa désapprobation que les faits et informations clarifiées à l'intention ces pays concernant la situation des droits de l'homme en Égypte n'aient pas été utilisées. Le ministère a souligné la nécessité d'un examen approfondi de ces revendications rejetées, appelant ces pays à cesser de porter des accusations qui reflètent uniquement une orientation politique répréhensible et qui incluent des erreurs sans fondement. La Communauté de développement d'Afrique australe, CADC, a fait savoir que l'industrialisation restait une priorité essentielle de ce bloc malgré la pandémie de COVID-19. Le secrétaire exécutif de la SADC a déclaré que la région avait franchi quelques étapes vers l'industrialisation, mais que les progrès restaient lents. La part du secteur industriel dans l'ensemble du PIB reste faible, aux alentours de 12%, a déclaré vendredi Mme Tax dans un discours adressé à une réunion en ligne du Conseil des ministres de la SADC. Madame Tax a également souligné la nécessité d'opérationnaliser le Fonds de développement régional de la SADC, car les projets régionaux nécessitent des financements adéquats et durables, et la nécessité d'accélérer les initiatives pour renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Irak, la fatale mission du sultan. La Turquie prétend vouloir combattre les éléments du PKK en Syrie et en Irak, mais on sait bien que c'est de l'imposture. Les agissements turcs en Syrie ont d'ailleurs fait l'objet de multiples révélations, dont celle faite par Hamad Ben Jassem al-Thani. Nous, les Saoudiens, les Émiratis et les Koweïtiens, nous nous étions mis d'accord avec les Turcs pour passer sous silence le déploiement de dizaines de milliers de terroristes venant des pays arabes du Golfe Persique et des pays étrangers et qui débarquaient en Syrie via la Turquie. Mais en Irak, à quelle date remonte la présence militaire turque? Cette présence militaire remonte aux années 1990. Mais le tournant de cette présence, ou plus précisément, le moment où Ankara s'est mise à agresser militairement l'Irak, remonte à 2015, où 3000 soldats turcs sont entrés en Irak et se sont stationnés à la base militaire de Bashira, près de la ville de Mossoul. Bien que cette action ait été condamnée par le gouvernement d'Adel Abdelmahdi ainsi que la Ligue arabe et que la Turquie ait été appelée à retirer ses troupes d'Irak dès que possible, Ankara, se référant à deux accords signés avec Bagdad, a tenté de justifier sa présence militaire sur le sol irakien. Le premier accord, cité par Ankara, remonte à décembre 1983, autorisant les troupes turques à entrer en Irak à 30 km de la frontière entre les deux pays, pour traquer les éléments du PKK, un peu comme un accord similaire à Adena signé avec la Syrie. Le deuxième accord auquel les Turcs se réfèrent pour justifier leur agression militaire date de septembre 1996, lequel a permis à Ankara d'établir une base militaire dans la région de Bashira. Pourtant, le pic de la présence militaire turque et de l'occupation de l'Irak date du 15 juin 2020, avec en toile de fond près de 2 ans d'opérations de surveillance et de reconnaissance de l'armée de l'air turque, au cours desquelles Ankara a sans cesse violé le ciel irakien sous prétexte d'avoir à éliminer les terroristes du PKK. Mais à vrai dire, pour se rapprocher du Sinjar. Pourquoi Sinjar? Les monts Sinjar et Kandil, où des centaines de femmes yézidis ont été tuées, violées et emmenées en esclavage au plus fort de l'agression de Daesh, ont en effet leur prolongation jusqu'en Syrie depuis l'ouest et jusqu'en Iran depuis l'est, d'où son intérêt pour le sultan qui agit encore une fois dans le strict intérêt de l'axe USA-Israël. Le sultan a pour mission d'occuper Sinjar pour couper la route Irak-Syrie et Irak-Iran. Ankara poursuit très exactement la création de plusieurs ceintures de sécurité qui s'étendraient du nord-est de la Syrie et se connecteraient au nord-ouest de l'Irak. Ces ceintures de sécurité partent d'Alep en Syrie et atteignent Kirkouk en Irak après avoir traversé Mossoul. La Turquie avait au début de la guerre syrienne fait le même en avançant à une profondeur de 80 km sur le sol syrien à Alep, en ouest de la Syrie. C'est ce qu'Ankara cherche en Irak. L'armée turque veut avancer à Aftanian Pajika dans la plaine de Mossoul et de là à Sinjar et les montagnes Kandil à Dohuk, où les troupes turques sont déjà stationnées et présentes. Pas mal comme idée, car c'est aussi une tentative de remplacer les troupes américaines qui se sont retirées d'Irak. Mais il y a plus. La rupture de la route de la soie qui traverse la ville de Sinjar en Irak et atteint les frontières de la Turquie. Là encore, la Turquie rebascule dans le camp des Américains et de l'OTAN, prenant la Chine pour cible. Mais l'axe de la résistance le permettra-t-il?
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi. Merci infiniment. Hier, justement, à l'occasion d'une cérémonie célébrant la bienheureuse naissance de l'avènement de la mission prophétique, le leader de la révolution islamique a prononcé un discours important. Lors de son discours, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei a affirmé que les États-Unis, en effet, continuent d'inverser la réalité en prétendant soutenir les droits de l'homme tout en apportant leur appui à ceux qui la violent. Le leader de la révolution islamique a cité le cas du Yémen et a rappelé que depuis plus de 6 ans, en effet, l'Arabie saoudite continue de bombarder, de massacrer les civils, mais les États-Unis, voire les Nations unies, ont gardé le mutisme sur ces crimes, mais continuent, en effet, notamment les États-Unis, de vendre des armes meurtrières à la coalition, ce commandement saoudien, pour le massacre de la population yéménite. Le leader de la révolution islamique a également critiqué les États-Unis pour avoir construit des bases militaires dans la région sous prétexte de combattre le terrorisme. L'ayatollah Khamenei a affirmé que les États-Unis avaient construit une base en Syrie sans l'autorisation de Damas, tandis que la République islamique d'Iran, en effet, est présente en Syrie avec l'autorisation, en effet, sur la demande plutôt du gouvernement syrien. L'honorable ayatollah Khamenei a également critiqué les États-Unis pour détenir le plus grand arsenal atomique du monde. Il a rappelé que les États-Unis étaient en effet le seul pays dans le monde à avoir utilisé l'arme nucléaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce discours important du leader de la révolution islamique. La présence américaine dans la région qui est source d'instabilité selon le leader de la révolution islamique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Au cours d'un discours, ce 11 mars, l'ayatollah Khamenei a dénoncé la sournoise rhétorique médiatique occidentale qui cherche à inculquer à l'Iran et aux alliés de l'Iran au sein de l'axe de la résistance l'image des partis qui refusent les offres de paix et qui cherchent à faire la guerre. Plus loin, le leader a dénoncé la défiguration systématique de la vérité et ces mensonges que les Américains et leurs alliés profèrent sans honte et avec un courage révoltant. Tenez le cas d'un pays comme le Yémen, dont le peuple est bombardé à la maison, à l'hôpital et à l'école par un allié des Américains. Un peuple soumis au blocus, privé de vivres et de médicaments et tout ceci avec le feu vert des États-Unis et alors même que les démocrates étaient au pouvoir. Cette férocité anti-yéménite est certes l'œuvre d'un État arabe, mais les États-Unis y apportent leur bénédiction. De l'autre côté, il y a ce peuple intelligent et talentueux qui a su se défendre en créant des armes ou en s'en procurant. Un peuple qui riposte désormais aux plus de 6 ans de bombardements. Et l'Amérique l'accuse de terrorisme. Pire, l'ONU en fait autant. Voilà un exemple parfaitement clair de l'imposture qui régit le camp d'en face, son langage, sa politique et son comportement. Les États-Unis possèdent, eux, l'un des plus grands arsenaux du monde qui a été même utilisé. L'Amérique est de loin le seul pays au monde à avoir usé de la bombe atomique et c'est cette même Amérique qui crie à la non-prolifération et prétend être contre les ADM. Quant à l'Iran et à sa politique régionale, cette même Amérique ne cesse de la dénoncer avec sa colère et rancune, alors même que l'Iran n'a aucune présence militaire où que ce soit. Et encore là, où cette présence existe, elle ne dépasse guère le stade de conseil militaire. Y a-t-il des chars, des avions de combat iraniens quelque part? Cette présence est souvent politique et pas plus, et pourtant l'Amérique nous accuse de déstabiliser le Moyen-Orient. Alors que l'Iran ne s'engage jamais nulle part, à moins que l'État légal le lui demande, bien au contraire des Américains qui occupent les pays entiers, quitte à y former des bases militaires et tout ceci sur le dos des gouvernements légitimes. Quant à l'Irak, c'est la même chose. Les Américains devront le quitter car c'est la loi irakienne qui le demande et ce sont les Irakiens qui le réclament. Idem pour la Syrie, d'où les États-Unis devront se retirer, a souligné le leader de la révolution.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse, monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Beyrouth, madame le docteur Qadda Hoballa, géopoliticienne. Madame Hoballa, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre invité, ainsi qu'à tous les spectateurs et spectatrices de votre émission.
Madame Hoballa, hier, à l'occasion de la bienheureuse anniversaire, du bienheureux anniversaire de l'avènement de la mission prophétique, le leader de la révolution islamique a prononcé un discours important. Justement, au début de son discours, le leader de la révolution islamique s'est attardé sur cette notion des droits de l'homme et sur le discours occidental, voire en effet américain sur cette question des droits de l'homme. Il a accusé les États-Unis d'inverser la réalité, de prétendre vouloir soutenir les droits de l'homme tout en apportant leur appui à ceux qui la violent. Alors, dans un cadre plus général, quel premier regard portez-vous sur ce discours du leader de la révolution islamique et ensuite sur la lecture américaine, voire occidentale, de cette notion?
Oui, alors.
Allô,
votre
madame
question, votre question, je vous écoute, parce que la connexion est très mauvaise. Si j'ai bien compris votre question, quel est mon avis concernant justement le discours du leader de la révolution islamique, c'est ça?
Voilà, justement, oui.
Bon, alors, en fait, on peut résumer en deux mots, vraiment en deux mots. Il est en train de rappeler la guerre douce que les États-Unis mènent depuis des décennies, depuis l'avènement de la révolution islamique en Iran, contre le peuple iranien. et aussi dans la région. Cette guerre douce s'est traduite par une oppression et un abandon économique, suivi de guerres de type 5e génération, voire 6e génération, comme ça s'est passé en Syrie avec Daesh, Qaïda, etc., et avant. Et ensuite, on a eu une guerre au niveau également économique, avec économico-monétaire qui est beaucoup plus structurée que la guerre économique en termes d'embargo. Donc en fait, il était en train de rappeler, et là on est en pleine guerre culturelle, on a tous les facteurs d'une guerre douce, mais vraiment c'est une guerre douce multidimensionnelle qui touche maintenant tous les volets d'un peuple, d'une société, d'un État. Et donc, il est bien de rappeler, c'est très intelligent de sa part, comme d'habitude, de rappeler justement cette guerre douce, mais en des termes bien, bien simples, parce qu'il s'adressait en fait non seulement au peuple iranien, mais également à l'opinion politique, à l'opinion publique arabe, de rappeler justement que font les États-Unis depuis une décennie, de rappeler leur histoire, à savoir que c'est la seule puissance qui a utilisé la bombe atomique contre justement le peuple japonais, et aussi de rappeler en fait que, et ça c'est très important, de rappeler que le rôle des États-Unis dans la région ou à travers, entre guillemets, je mets entre guillemets leurs alliés, est un rôle de soumission, c'est-à-dire qu'ils prétendent vouloir apporter de l'aide et assurer la sécurité à leurs alliés, mais en fait ils construisent des bases. Et ces bases, qui paie les frais de ces bases, ce sont bien entendu les alliés. Alors que l'Iran, la République islamique de l'Iran, non seulement elle n'a pas de base, comme l'a bien souligné vous l'avez souligné dans votre introduction, mais en fait, ils sont en train, la République islamique de l'Iran, oui, elle joue une influence politique, mais c'est une influence politique autorisée, autrement dit légitimée, puisqu'elle s'est faite dans le cadre soit d'accords bilatéraux, soit d'accords multilatéraux, c'est-à-dire soit il y a un accord bilatéral entre la Syrie et la République islamique de l'Iran de les venir en aide, soit il y a un accord, donc il y a toujours une autorisation légale, c'est toujours légitimé. Alors, et en plus, il n'y a pas de frais à payer, c'est-à-dire que c'est ce qu'apporte l'Iran à ses peuples. La Syrie et le Yémen, ce ne sont pas des armes qu'il faut vendre. C'est en fait le savoir, la technologie. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'on est en train de former, l'Iran est en train de former un peuple, de lui offrir tous les moyens, tous les armes pour se défendre, sans en acheter. Et c'est extraordinaire. Et c'est ça qui fait peur, et qui fait peur les États-Unis et qui les aide. Parce que ce genre d'influence ne s'arrête pas en un jour. Ce genre d'influence est une influence qui est durant des éternités. Et donc au Yémen, ils sont capables maintenant de construire, de fabriquer leurs propres missiles, de fabriquer leurs propres drones. L'Iran a donné la capacité, elle offre au peuple la capacité de se défendre. Alors que les États-Unis n'offrent pas cette capacité. Ils se contentent de vendre leurs armes sans même leur offrir ou leur garantir les moyens de se réarmer si jamais ces peuples ou ces alliés voulaient se réarmer. Voilà.
Merci infiniment pour ces éclairages, Madame Oballa. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue français. Monsieur Dortiguet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Avec grand plaisir. Bonjour, Monsieur Codamandé. Bonjour à vos auditeurs et à Madame Oballa. J'ai bien apprécié l'exposé.
Monsieur le professeur, concernant la question des droits de l'homme, bien sûr, la position des États-Unis et de l'Occident, en général, relève, comme l'a rappelé le leader de la révolution islamique, de la pure imposture. Mais plus précisément, concernant alors cette comparaison entre la présence américaine dans la région et la présence de la République islamique d'Iran, qui est bien entendu, en effet, sollicitée par les gouvernements légitimes des pays de la région. Alors, quel parallèle, monsieur le professeur, tirez-vous de cette présence, d'autant plus que, alors, ces derniers temps, bien entendu, dans le cadre de leur politique d'iranophobie, les États-Unis et leurs alliés dans la région continuent d'accuser la République islamique d'Iran, en effet, d'avoir une présence déstabilisatrice dans la région.
C'est un discours, comme l'a dit Mme Oballa, très complet, simple, qui touche deux points essentiels. D'abord, le guide suprême a parlé de cette sorte de revendication des droits de l'homme dont on fait un drapeau ici en Occident et aux États-Unis, bien sûr, en Angleterre, et qui en réalité, donc, est une, historiquement, n'a pas été du tout une affaire innocente, mais a été une machine de guerre pour détruire les sociétés traditionnelles. Toute la, notre colonisation, dans ses côtés les plus durs, a été faite par, au nom des droits de l'homme, etc. Je dis au XIXe siècle, nous avons engagé deux guerres mondiales au, au nom des droits de l'homme. Je le dis aussi, en, bien sûr, en pointant bien sûr la participation américaine. C'est au nom des droits de l'homme que cette bombe atomique a été lancée également sur le Japon, qui était, il faut le dire, on le dit rarement, je permets de le dire devant Dieu, qui était innocent. Et aujourd'hui, disons, si on compare, on voit un contraste entre, bien sûr, je le redis encore, l'Iran qui est, et même la Russie d'un côté, comme l'Iran, qui ont été appelés, par exemple, sur le champ de bataille en Syrie, parce que, par la base de Tartous, vous savez que vous connaissez le cabinet russe, ce sont des accords légaux, c'est l'appui d'un régime démocratique. On peut ne pas aimer le contenu de cette démocratie, mais c'est une démocratie. Et les alliés des États-Unis, eux, ne sont pas du tout des protégés. Ce sont en réalité des gens qui sont là pour acheter des armes, qui sont pour servir les intérêts américains. Et lorsque ceux-ci ne les servent plus, eh bien, évidemment, ils sont remplacés par des coups d'État, des choses comme ça. Nous l'avons vu sur tous les continents, et dans toute l'Asie en particulier. Et l'Iran, bien sûr, ce parallèle, à notre avis, est très symptomatique. Parce que on agite ici, tous les gouvernements, la presse, c'est la presse chez nous qui joue un rôle très fort, d'excitation. On n'explique pas la situation, on agite. Alors on agite, on disait que on donne une caricature de l'islam, par exemple, des musulmans, on donne une caricature des régimes. Bien sûr, on oublie que souvent, ce dont souffrent ces régimes, c'est aussi en grande partie... C'est toujours, il y a toujours des problèmes intérieurs. Et également, ce sont les contraintes extérieures qui sont durables, voyez-vous, et ceci est caché entièrement chez nous à la population. C'est pour cela que une telle intervention du guide suprême chez nous est attendue, voyez-vous, parce que je le redis comme a dit Mme Obala, elle est faite en termes simples, voyez-vous, elle brosse, par exemple, ce qu'il a dit sur le Yémen, je le reprends, évidemment, l'Iran tâche, disons, de faire progresser cet État qui est remarquable. Qui est remarquable, c'est-à-dire qu'il y a une grande fortune antérieure, historique, etc. C'est l'ancienne Arabie heureuse. Eh bien, tandis que les États-Unis, non, ils s'en servent comme de chair à canon, voyez-vous. Ils se servent, ils placent des gens, ils les font rivaliser entre eux. C'est une véritable jungle, voyez-vous. Et là, de ce point de vue, l'Iran, il faut le reconnaître, s'est maintenu, disons, dans des règles, dans des normes qui sont les normes de la civilisation. Tandis que nous avons de l'autre côté, et ceci je le dis depuis le début de la guerre de 14, nous sommes ici au contraire plongés dans une immense barbarie, et les États-Unis ont participé, évidemment ont fait beaucoup, je dis ils ont mis beaucoup du leur, n'est-ce pas, peut-être par ignorance aussi de la population, le fait qu'ils étaient mal informés, ils ont été, ceci est fort possible, je le crois, mais disons, ils ont participé, bien sûr, à ce démembrement, on peut dire, du monde, et à cette dislocation du monde. Et je dois dire un dernier mot, on présente souvent les États-Unis comme étant un rempart contre le communisme et autres. Ils ont favorisé, je le dis ouvertement, le bolchevisme pour pouvoir justement asservir, au nom de la gardienne de la civilisation, asservir le reste du monde.
Merci pour ces précisions, Monsieur le Professeur. Restez avec nous. Madame Obala, pour ce qui est justement de l'approche de la nouvelle administration américaine envers la République islamique d'Iran et plus précisément envers l'accord nucléaire, l'Iran a toutes les raisons de rester en effet méfiant, d'autant plus que depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden, aucune mesure concrète n'a été en effet prise. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'administration Biden, en effet, d'introduire des changements dans sa politique envers l'Iran et l'accord nucléaire?
Je tiens à rappeler que le guide suprême de la révolution islamique, sous la politique durant l'administration d'Obama, au moment où il y avait justement ces négociations pour l'accord nucléaire 5-6-1, il s'était exprimé à plusieurs occasions justement, en s'adressant aux négociateurs iraniens et aux diplomates iraniens, en leur disant, méfiez-vous, même si vous signez un accord avec les États-Unis, il faut toujours se méfier de si jamais ils vont respecter leurs obligations, leurs engagements. Donc, le but suprême de la révolution islamique, depuis le début, même avant la signature de l'accord nucléaire, avait déjà mis en garde et le peuple iranien et les négociateurs iraniens. Donc, cela n'est pas nouveau. Et ils continuent à le faire, même après la signature de l'accord nucléaire. Et donc, toute l'histoire de toute la politique, je dirais, des États-Unis à l'égard non seulement des alliés, mais à travers leurs accords, leurs engagements dans leurs accords, est une politique qui à l'égard, on doit être très méfiant. Ce n'est pas une puissance qui respecte ses engagements. Et cela, c'est sous l'administration Trump. Cela s'est révélé avec justement le retrait des États-Unis de l'OMS, ensuite le retrait de l'accord du climat. Donc il y a eu plusieurs faits qui justement attestent le fait d'être méfiant à l'égard des États-Unis. Cela dit, l'accord nucléaire iranien, en termes géopolitiques, il est clair que c'est une arme géopolitique entre les mains, une carte, pas une arme. Une carte géopolitique entre les mains des États-Unis, elle tente d'utiliser cette carte pour justement pouvoir imposer sa vision d'un nouvel Moyen-Orient. Et donc c'est la raison pour laquelle on parle souvent des observateurs selon lequel que justement l'accord, si jamais il y a des négociations, les États-Unis souhaitent y introduire plusieurs volets. Autrement, surtout concernant par exemple les missiles balistiques, concernant ce qu'ils appellent l'influence déstabilisatrice des États-Unis dans la région en soutenant la résistance palestinienne ou en soutenant le Hezbollah, etc., etc. Donc ils souhaitent à travers ces négociations et à travers l'accord nucléaire non pas de changer le comportement de l'Iran, parce qu'ils savent parfaitement que cela est impossible, mais par contre de pouvoir essayer de gagner des points sur une nouvelle carte géopolitique du Moyen-Orient qui apparemment est en train de changer parce que justement il y a un nouvel équilibre des puissances régionales qui est en train de se faire, que ce soit avec l'Iran, que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Syrie qui est sortie de la guerre, que ce soit avec le Yémen également. Et toute cette nouvelle géopolitique régionale, bien entendu, elle met en danger directement, et c'est ce que les Israéliens ont dit, justement l'existence de l'entité sioniste. Il n'est pas question ici, en fait, non seulement de force militaire, mais il y a vraiment un acte qui, à travers plusieurs guerres, a réussi à accumuler des expériences, et cela, bien entendu, met en danger justement l'entité sioniste.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Dortiguier. M. Dortiguier, donc, en dépit de l'échec, de l'aveu même des responsables américains de la politique d'oppression maximale contre la République islamique d'Iran, alors les États-Unis et l'administration Biden, en effet, continuent de se servir, d'ailleurs comme un prétexte, bien entendu, cet accord nucléaire, cette question nucléaire, pour changer, comme l'a rappelé Mme Hoballa, la carte géopolitique, la donne géopolitique, en effet, dans la région et dans le but, bien entendu, de parvenir à ces objectifs illégitimes dans la région.
Mais alors, l'objectif dans la région est très clair pour les États-Unis et pour en particulier l'entité sioniste, qui a une très grande importance, vous le savez, aux États-Unis, et encore plus, je dirais qu'elle est autant, mais peut-être plus libérée, plus libre d'expression maintenant sous le gouvernement de M. Biden. C'est leur impératif, à mon avis, de briser toute union entre l'Iran et les États arabes, qui sont bien sûr les premières victimes de l'entité sioniste et qui empêchent encore celle-ci de s'étendre, voyez-vous, de composer une nouvelle carte dont a parlé Mme Obala. Et je crois qu'ils veulent, disons, empêcher, rompre, disons, briser ce soutien que l'Iran a apporté, et disons qu'ils veulent poursuivre, si je puis dire, permettez-moi l'expression un peu, l'attentat contre le général martyr sur les maniers, voyez-vous. Ça, je crois que c'est leur but premier et que tout le reste n'est qu'un rideau de fumée. Ce sont des arguties, voyez-vous. Ce qu'ils veulent, c'est précisément flatter. Je dirais qu'ils veulent agresser en même temps qu'ils pourraient flatter l'Iran en disant, voyez, nous sommes prêts à nous montrer compréhensifs, etc., à condition simplement que vous lâchiez disons, votre soutien stratégique. Or, ceci serait une erreur fatale, car, bien sûr, le Proche-Orient ne peut exister, se maintenir, que s'il résiste, bien sûr, à cet État qui a été créé avec les États-Unis et de l'Union soviétique en 1948.
Donc, l'objectif, à court terme, bien entendu, c'est l'Iran, mais dans un cadre plus général concernant les évolutions de la région, c'est l'axe de la résistance, d'autant plus que ces derniers temps, bien sûr, la résistance dans différents pays de la région, du Moyen-Orient, a remporté en effet des victoires spectaculaires, d'autant plus que tout cela, bien sûr, conduira tôt ou tard au retrait total des États-Unis des pays de la région.
C'est cela, en effet, vous l'avez bien dit, Monsieur Codamandé, c'est cela, en effet, qui est présent, disons, dans la stratégie américaine. Et je dirais, c'est cela qui est imposé à la stratégie américaine par des gens, ce que nous avons cité, mais qui, en fait, doivent se confondre aussi avec, la puissance financière internationale qui, vous savez, agite les États, comme on dit, pour mieux s'en servir.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Madame le docteur Kata Hoballa, géopoliticien depuis Beyrouth, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bienvenue dans cette émission Focus consacrée essentiellement aux propos du guide suprême de la révolution islamique. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a prononcé un discours télévisé adressé à la nation iranienne à l'occasion du jour anniversaire de l'avènement à la prophétie du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que Dieu le bénisse, lui et les siens. Le guide suprême de la révolution islamique a décrit l'anniversaire de l'avènement à la prophétie comme la fête de tous les peuples qui aspirent à la justice dans le monde, en particulier les nations musulmanes. L'honorable Ayatollah Khamenei a précisé « La religion est un programme inclusif pour la vie des humains. Elle ne se limite pas à l'individu. Notant que les ennemis rejettent l'islam politique qui dirige l'État et ses institutions. » En outre, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « La révolution islamique d'Iran a concrétisé et ravivé le contenu de la mission prophétique, saluant l'idéologie de l'imam Khomeini qui a donné un nouvel essor au chemin prophétique et l'a stabilisé dans la société. » Ailleurs dans son discours, le guide suprême de la révolution islamique a fait remarquer « Le travail de l'ennemi est de déformer la vérité et de dire des mensonges. Ils le font de manière si effrontée et sans vergogne que quiconque les écoute pense qu'ils disent la vérité. Ils déforment la vérité à 180 degrés d'une manière totalement indifférente et déterminée. » Et honte. Dans une autre partie de son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a fait la lumière sur le conflit yéménite qui est entré dans sa sixième année en déclarant « Les conspirateurs arabes, complices des États-Unis, bombardent le peuple yéménite et commettent des crimes contre lui depuis 6 ans. Ils bombardent le peuple opprimé du Yémen dans leurs maisons et les rues, dans les hôpitaux et les écoles. Les gens ont été assiégés et leur approvisionnement en nourriture, en médicaments et en pétrole ont été coupés. Et bien sûr, cela s'est produit avec le faveur des États-Unis. À cette époque aussi, une administration démocrate était au pouvoir aux États-Unis. Ils ont donné à ce gouvernement impitoyable et cruel et oppressif le feu vert pour qu'il se comporte avec le peuple yéménite d'une manière aussi cruelle. » Le guide suprême de la révolution islamique a ajouté « Maintenant que les Yéménites hautement talentueux ont réussi par leur propre capacité à construire des armes défensives pour répondre à ces 6 années de bombardement, ils crient en utilisant leur machine de propagande pour inculquer qu'il y a eu une attaque ou un acte de terreur. Tous disent cela, y compris les Nations Unies. L'action des Nations Unies est vraiment pire que de ce que font les États-Unis. Eh bien, les États-Unis sont un gouvernement arrogant et oppressif, mais pourquoi les Nations Unies? L'ONU ne condamne pas le coupable pour ces 6 années de bombardement, mais elle condamne les Yéménites parce qu'ils se défendent parfois et parce que cette défense a fonctionné. Ailleurs, dans ses propos, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné le fait que les États-Unis possèdent le plus grand arsenal d'armes nucléaires au monde. Et ils l'ont également utilisé. Le seul gouvernement qui a utilisé des bombes atomiques dans le monde est le gouvernement américain qui a massacré 220 000 personnes en une journée seulement. Puis il crie qu'ils sont contre la prolifération des armes atomiques. L'honorable Ayatollah Khamenei a ajouté « Les États-Unis soutiennent un criminel qui démembre son adversaire en morceaux avec une scie. Cependant, ils prétendent soutenir les droits de l'homme. Alors, ils déforment la réalité à ce point. » Et le guide suprême de la révolution islamique a précisé que c'est l'Amérique qui a créé le Daesh et cela a été reconnu par les Américains eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui faisons cette affirmation. Au contraire, cela a été reconnu à la fois par celui qui l'a créé et par celui qui était son rival. Ils ont eux-mêmes créé ce groupe et puis ils ont construit des bases militaires en Irak et en Syrie sous prétexte que le Daesh est présent dans ce pays et qu'ils vont le combattre. Faisant référence à certains des exemples de l'aide américaine au Daesh, il a déclaré « Ils fournissent à Daesh des outils médiatiques modernes et avancés. Ils leur donnent également de l'argent, leur permettent de vendre du pétrole syrien et leur disent d'utiliser cet argent pour leurs objectifs. En même temps, ils prétendent combattre le groupe terroriste Daesh. » L'honorable Ayatollah Khamenei a exhorté les États-Unis à quitter immédiatement l'Irak et la Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que les contre-mesures que l'Iran avait commencé à prendre un an après le retrait des États-Unis d'un accord nucléaire de 2015 étaient légales et avaient pour but de préserver l'équilibre de l'accord multilatéral, rappelant qu'elles peuvent être inversées au cas où Washington reviendrait à respecter ses obligations. Si les États-Unis lèvent leurs sanctions illégal et s'acquittent de leurs obligations conformément au plan global d'action conjoint l'accord sur le nucléaire de 2015, l'Iran annulera également toutes ses mesures correctives, a déclaré Zarif lors d'un appel téléphonique avec son homologue finlandais. C'était mercredi. Le leader du mouvement yéménite, Ansar Allah, a dénoncé la politique des États-Unis au Moyen-Orient en soulignant que l'unique objectif de la Maison-Blanche a toujours été de défendre les intérêts d'Israël au détriment des nations arabes et musulmanes de la région. Abdel Malek al-Houssi a prononcé un discours à l'occasion de l'anniversaire du martyr de l'ancien dirigeant du mouvement Hussein Badreddin al-Houssi. Dans son discours, le leader du mouvement yéménite d'Ansar Allah a condamné les conspirations des États-Unis et de l'entité des sionistes pour garder les nations musulmanes dans un état d'instabilité et d'agression permanente en suggérant une image négative des musulmans au monde. Le leader du mouvement Ansar Allah a ajouté que les organisations terroristes comme Al-Qaïda et Daesh rendaient également service aux États-Unis à entités sionistes et à leurs alliés occidentaux et régionaux, leur permettant de justifier leur présence illégitime dans la région. Nos ennemis veulent suggérer que les takfiristes représentent les nations musulmanes. Or, ces takfiristes ont commis les pires crimes contre les musulmans en Iran, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Liban, en Égypte, au Yémen et dans les pays du Maghreb, en Afrique, en Europe, a-t-il indiqué. Abdul Malik al-Houssi a dénoncé la démagogie médiatique des États-Unis qui prétendent défendre les droits de la nation yéménite, tandis que Washington n'accorde jamais la moindre attention aux principes de la coexistence pacifique des différentes composantes de la société yéménite. La coexistence pacifique a toujours été le principe fondamental de la société yéménite, mais les États-Unis ont préféré soutenir les groupes criminels comme les terroristes takfiristes, car le seul but de la politique de Washington est d'affaiblir les nations musulmanes pour rendre service aux intérêts du régime israélien, a-t-il souligné. Dans une autre partie de son discours, le leader du mouvement yéménite d'Ansarallah a rendu hommage au mouvement de la résistance islamique du Liban pour ses victoires successives sur l'ennemi sioniste à partir de 2000, date d'expulsion des occupants israéliens du sud du Liban. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.